Roi Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 18h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 9 octobre 2019. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. En Tunisie, la justice a ordonné la remise en liberté de Nabil Karoui alors que les résultats des législatives sont attendus ce soir. 4 jeunes du parti au pouvoir au Burundi condamnés à la prison à perpétuité pour l'assassinat d'un opposant. Épidémie de rougeole en République démocratique du Congo, plus de 4000 morts depuis janvier, dont 90% d'enfants. Frappes aériennes turques dans le nord syrien, le Conseil de sécurité et l'OTAN appellent Ankara à la retenue. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. En Tunisie, la Cour de cassation a ordonné la remise en liberté du candidat Nabil Karoui à quelques jours du second tour de la présidentielle dimanche, où il fera face au juriste indépendant Kais Saied. Les résultats des élections législatives sont attendus ce soir, Ekiabadou.
La justice tunisienne a décidé de libérer le candidat à la présidentielle Nabil Karoui, qui devrait sortir de prison dès ce soir, a indiqué l'un de ses avocats, maître Kamel Ben Messoud. La décision a été prise par la Cour de cassation d'après Maître Ben Messoud à 4 jours du second tour qui doit opposer son client Nabil Karoui, incarcéré depuis fin août et soupçonné de blanchiment d'argent, au juriste indépendant Kais Saied. Quant aux législatives de dimanche dernier, les premières estimations donnent une avance au parti islamiste Ennahda, avec une percée notable de nouveaux partis hétéroclites et la déroute du courant centriste et des partis traditionnels. Avec une cinquantaine de sièges sur les 217 que compte l'Assemblée, Ennahda devrait rester le principal parti du Parlement. Cependant, le parti d'obédience islamiste a perdu du terrain. Il est bien loin des 89 sièges obtenus en 2011 et des 68 dans l'Assemblée sortante. Les tractations laborieuses pour la formation d'un gouvernement ont déjà démarré.
Au Mali, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda a revendiqué les 2 attaques meurtrières contre les camps de l'armée malienne de Boulkessi et Mondoro. Selon le dernier bilan officiel, 40 militaires ont péri dans ces attaques et des dizaines de soldats sont portés disparus. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, des djihadistes affirment avoir capturé 2 officiers, dont un colonel, commandant de base de Boulkessi, et tué au moins 85 militaires de tout grade. Dans une interview à la chaîne américaine ABC, le président nigérien Mamadou Issoufou assure que l'otage américain Jeffrey Woodke est en vie et en bonne santé, précisant continuer de tout faire pour créer les conditions de sa libération. L'humanitaire avait été enlevé à son domicile à Abalak, dans la région de Tawa, en octobre 2016. Un soldat et un gardien avaient été tués pendant le kidnapping. En République démocratique du Congo, l'UNICEF vaccine des milliers d'enfants contre la rougeole et achemine des médicaments vitaux vers les centres de santé, alors que la plus grande épidémie de rougeole dans le monde a fait plus de 4000 morts. Depuis janvier, plus de 203 000 cas de rougeole ont été signalés dans les 26 provinces et 4096 personnes sont décédées. Nous y reviendrons dans la rubrique des dossiers. Des entreprises belges attendent de meilleures conditions de la part des autorités congolaises pour répondre à l'appel du président Félix Tshisekedi à investir en RDC, a indiqué Johan Indeke, ambassadeur de la Belgique à Kinshasa. Des hommes et femmes d'affaires sont disposés à venir nombreux, mais ils attendent que le gouvernement et l'administration créent des conditions correctes de travail, a déclaré l'ambassadeur. Au Burundi, 4 membres de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir ont été condamnés à la prison à perpétuité pour l'assassinat d'un opposant en août. Irénée Hermanongbo nous en dit plus.
Cette condamnation, un rare exemple de justice rendue pour les exactions commises par les forces affiliées au régime burundais, a été prononcée par un tribunal à Munyenga, dans l'est du Burundi. Les 4 condamnés âgés de 34 à 41 ans sont tous membres des Imbonerakure, un groupe accusé d'être un des bras armés du pouvoir. Cette condamnation est exceptionnelle car souvent, les forces de l'ordre et la justice sont obligées de fermer les yeux devant les exactions et les crimes commis par des Imbonerakure. Amir Akouré, mais les condamnés ont été lâchés par le pouvoir parce que certainement l'affaire avait fait couler beaucoup d'encre, a commenté une source judiciaire. La porte-parole du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, Nancy Ninette Moutoni, n'a pas souhaité réagir. Dans la nuit du 18 au 19 août, quelques 150 opposants avaient été attaqués par des dizaines d'Ibonerakure armés de gourdins, machettes et couteaux. Un opposant a été tué et une dizaine d'autres blessés.
Le premier ministre marocain Saad Eddine El Othmani a présenté un gouvernement resserré de 39 à 24 portefeuilles au roi Mohamed VI. Ce cabinet est le plus resserré de l'histoire du pays. Le souverain avait annoncé ce remaniement en juillet dans un discours marquant ses 20 ans de règne en promettant une étape nouvelle pour réduire les disparités.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Turquie a lancé une offensive dans le nord-est de la Syrie contre la milice kurde soutenue par Washington dans la lutte contre le groupe État islamique. Les détails avec Yacouba Ouedraogo.
L'armée turque et les rebelles syriens soutenus par Ankara ont débuté l'opération qu'ils qualifient de source de paix dans le nord de la Syrie. D'après le président Recep Tayyip Erdogan, cette offensive vise ceux qui se font appeler Forces démocratiques syriennes et Daesh et a pour objectif de mettre en place une zone de sécurité dans le nord-est de la Syrie. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a fait état de plusieurs frappes aériennes. Deux civils ont été tués selon les forces kurdes. Le sénateur républicain Lindsey Graham a prévenu que le Congrès va faire payer très cher au président turc son offensive contre les Kurdes alliés de Washington. L'OTAN a appelé la Turquie à la retenue. La France a condamné l'offensive et saisi le Conseil de sécurité de l'ONU. L'Allemagne l'a aussi condamné, affirmant que cela va provoquer une résurgence du groupe État islamique. Lundi, sur décision du président Trump, des troupes américaines ont quitté certaines zones frontalières entre la Turquie et la Syrie. Donald Trump a assuré que Washington n'a pas abandonné les Kurdes qui ont contribué à la défaite du groupe État islamique. Ankara considère ses combattants kurdes comme une menace à sa sécurité en raison de leur lien avec le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui mène une guérilla sur le sol turc.
Ici aux États-Unis, le sénateur Lindsey Graham a déclaré que les républicains, majoritaires au Sénat, ne voteraient jamais pour destituer le président Donald Trump sur la base de son appel téléphonique avec son homologue ukrainien. Une déclaration faite au lendemain de l'annonce de la Maison-Blanche disant qu'elle ne collaborerait pas à l'enquête menée par les démocrates sur l'affaire ukrainienne. Jacques Aristide nous en dit plus.
Pour Lindsey Graham, élu républicain de la Caroline du Sud, les démocrates de la Chambre des représentants veulent détruire la nation sans raison valable. Il appelle Nancy Pelosi, présidente de la Chambre, de mettre un terme à cette démarche. Pour sa part, la Maison-Blanche a qualifié hier d'anticonstitutionnelle l'enquête menée par des élus démocrates en vue d'une éventuelle procédure de destitution contre Donald Trump. La présidence américaine a indiqué qu'elle ne coopérerait pas avec cette enquête qui n'est, selon elle, ni légitime ni impartiale, sauf si la Chambre des représentants organise un vote sur une éventuelle mise en accusation du président. Nancy Pelosi a, elle, dénoncé un refus qui n'est que la dernière tentative de la Maison-Blanche de camoufler sa trahison de notre démocratie, dit-elle. Les démocrates accusent le président américain d'avoir fait pression sur son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'un échange téléphonique afin qu'il cherche des informations compromettantes sur son rival Joe Biden. Donald Trump estime, lui, que cet appel était parfait.
Les États-Unis ont fermement condamné l'attaque d'une synagogue ce mercredi à Halle, en Allemagne, dans laquelle au moins deux personnes ont été tuées et deux autres grièvement blessées, a déclaré l'ambassade américaine à Berlin, rappelant qu'elle a été perpétrée pendant le Yom Kippour, le jour le plus saint de l'année pour les Juifs. En France, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a exhorté les contributeurs du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme à intensifier leur engagement. « Nous sommes réunis pour envoyer un signal fort, universel et ambitieux », a déclaré la ministre à l'ouverture à Lyon d'une conférence de refinancement du fonds pour 2020-2022, dont l'objectif est fixé à 14 milliards de dollars. et un fournisseur d'électricité américain jugé responsable de l'incendie le plus meurtrier de Californie l'an dernier a annoncé qu'il allait couper l'électricité à 800 000 clients autour de San Francisco pour limiter les risques de feu. La décision de couper l'alimentation électrique répond aux prévisions de temps sec, chaud et venteux et aux risques potentiels d'incendie, a justifié la compagnie de PG&E, précisant que cet épisode de vent violent devrait durer jusqu'à jeudi. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, l'actualité économique présentée par Nani Talani.
Le Sénégal repousse au 4 novembre le lancement d'octroi de licences de pétrole et de gaz en attendant de finaliser les documents contractuels pour assurer le cadre juridique des investisseurs. Mamadou Faye, le DG de la compagnie pétrolière nationale Petrosen, soutient que le nouveau cycle de licences sera ouvert pendant 6 mois et concernera des développeurs pour 10 à 12 gisements offshore. Brussels Airlines annonce la reprise de ses vols quotidiens qui chassent à Bruxelles. Ils avaient été réduits à 4 par semaine début 2018 sur fond de brouille entre la RDC et la Belgique. Cette annonce intervient 3 semaines après la visite en Belgique du président Félix Tshisekedi. Le budget 2020 du Nigeria s'élève à 33,8 milliards de dollars en hausse par rapport au budget de l'année en cours. Ce budget a été calculé sur la base d'une production de 2,18 millions de barils de pétrole par jour à 57 dollars le baril contre 1,86 millions de barils actuellement. Pour terminer, la société zimbabwéenne de distribution d'électricité veut relever le tarif douanier de 38,61 centimes à 162,16 centimes. Cela permettrait de payer les importations d'Afrique du Sud et du Mozambique qui coûtent 19,5 millions de dollars par an. Par ailleurs, le Zimbabwe a quadruplé le prix de l'électricité, l'augmentant de 320% pour financer ses investissements énergétiques.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
La CAF décide de faire jouer le match Zamalek Génération Foot le 24 octobre.
Oui, ce match entre dans le cadre des rencontres retour des préliminaires de la Ligue africaine des champions et devait se disputer le 28 septembre au Caire, mais les Égyptiens l'ont délocalisé au dernier moment à Alexandrie et l'ont reprogrammé au 29 septembre, d'où le refus des Sénégalais de jouer. À l'aller, Génération Foot s'est imposé 2-1 à Dakar. Le Zamalek d'Égypte et Génération Foot du Sénégal s'affronteront le 24 octobre au Caire. La CAF avancera les frais relatifs au transport international et à l'hébergement de Génération Foot. L'équipe perdante sur l'ensemble des deux matchs sera reversée en Coupe CAF et prendra part au tour préliminaire additionnel dont les matchs aller se disputeront le 30 octobre et une semaine après pour les matchs retour.
Le mandat du comité de normalisation a été prolongé au Ghana.
Le conseil de la FIFA a décidé de prolonger une nouvelle fois le mandat du comité de normalisation de la Fédération ghanéenne de football. Le président Kofi Amoa et ses collaborateurs ont jusqu'au 17 novembre pour compléter notamment le processus entamé. C'est la troisième fois que ce comité est prorogé afin de terminer sa mission de redressement de l'administration du football local. Le dernier mandat prenait fin le 30 septembre dernier. Les élections pour un nouveau président de la fédération et les membres du comité exécutif sont prévues le 25 octobre prochain. Amanda Clinton, George Akoma, Mensa, Nana Yaya Aponsa, Kurt Edwin Simon Okraku, George Afriyi et Frédéric Papoué sont en course pour succéder à Kwesi Nyantaki.
La Sierra Leone disputera son prochain match à domicile à huis clos.
Ainsi en a décidé la FIFA en réponse aux incidents qui ont émaillé la réception du Libéria le 8 septembre en préliminaire du Mondial 2022. Le Libéria, vainqueur 3-1 à l'aller et désormais qualifié pour la phase de groupe, est sorti victorieux de ce premier tour éliminatoire en s'inclinant 1-0 au match retour en raison de l'invasion du terrain par des spectateurs, du jet d'objets et du service d'ordre insuffisant. La commission de discipline de la FIFA a infligé à la Fédération sierra-léonaise un match à huis clos pour le prochain rendez-vous de sa sélection à domicile et une amende de 45 700 euros. La Fédération libérienne a dénoncé l'accueil réservé à sa sélection, assurant que l'équipe a été attaquée par des supporters armés et empêchée de s'entraîner.
Merci beaucoup, Yacouba, pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
C'est bien le monde aujourd'hui de VOA Afrique. Nathalie Barge avec vous. Maintenant, les dossiers du jour. Au Mali, la population de Sévaré dans la région de Mopti est sortie massivement ce matin pour une marche pacifique organisée par la plateforme Fasoko. Cette marche avait pour objectif de soutenir les forces de défense et de sécurité et de dénoncer la gestion étrangère de la crise. Nous retrouvons notre correspondant sur place, Mamoudou Bokoum.
Rond-point de Sévaré à la base de l'AMINUSMA, en se dirigeant après vers Mopti, on pouvait voir des jeunes tout au long du trajet. Des jeunes révoltés contre ce qu'ils ont appelé la mauvaise politique de la France dans la gestion de la crise au centre. Malamine Koulibaly est le président de la plateforme Fasoko de Sévaré.
On a organisé cette marche pour soutenir notre force armée et de sécurité et de défense. En plus de cela, pour soumettre notre motion à l'autorité nationale compte tenu de l'insécurité grandissante au centre ici. Et en plus de cela, la stratégie, la politique de la France face à cette situation, il est grand temps qu'on décrit cela. Et cela va de soi qu'on s'engage, qu'on réarme pour demander leur départ sans condition. Le départ pur et simple de la France, l'AMINUSMA, toutes les forces étrangères.
On entendait les marcheurs scander des slogans hostiles à la France, à l'AMINUSMA, bref, à toutes les forces étrangères présentes au Mali.
Le problème, c'est que nous sommes fatigués, que nous avons souffert. Tous les jours, on enregistre des morts. Les civils, les militaires, les policiers. Personne ne peut sortir sans qu'il ne soit tué. Que la France dégage alors de chez nous.
Nous sommes fatigués. Nous demandons le départ de la France. On ne peut même pas aller à la foire de Bundaka. Tout près, sans qu'on nous tue. La MINUSMA et Barkhane sont venus nous aider. S'ils ne peuvent pas le faire, qu'ils dégagent.
Nous voulons montrer à l'opinion nationale et internationale, à la MINUSMA et à Barkhane, notre indignation pour ce qui s'est passé à Bouké ici. Comment ils prétendent nous aider et que nos forces de défense trouvent la mort comme ça? Nous ne voulons plus d'eux chez nous.
Parmi les marcheurs, il y avait des femmes des militaires. Elles s'opposent à l'envoi de leur époux sur le front tant que ceux qui sont à Bamako ne viennent pas.
Nous ne voulons pas que nos époux se rendent encore à Boulkessi. Nous voulons qu'on ferme tous les postes. Les femmes de Kati ont refusé à ce que leurs époux viennent au front. Nous aussi, nous refusons, puisqu'on a perdu nos époux et nos enfants. Ce sont nos époux seulement qui sont là. À Bamako, les hommes dorment là-bas. Nous ne serons plus d'accord avec ça.
Selon les responsables de la plateforme Fasoko, si le gouvernement ne répond pas à leurs doléances, les marches vont continuer jusqu'à leur satisfaction. Mamoudou Bokoum à Mopti pour VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
L'avocat de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, qui a été acquitté par la Cour pénale internationale, demande sa mise en liberté immédiate et sans condition et la possibilité pour lui d'être candidat à la présidentielle de 2020. Monsieur Gbagbo est en liberté surveillée en Belgique. La procureure Fatou Bensouda a fait appel. Pour une analyse, Idriss Fall a joint maître Emmanuel Altit, conseil principal de Laurent Gbagbo.
Alors nous avons demandé la fin des limitations qui avaient été posées par la Chambre d'appel à la liberté du président Gbagbo. Nous demandons donc qu'il recouvre l'intégralité de ses droits d'homme et de ses droits de citoyen.
Et pourquoi ?
Eh bien parce qu'il y a droit. Il y a droit. À partir du moment où il a été acquitté, il n'y a pas de raison, pensons-nous, pour que sa liberté soit limitée, qu'il ne puisse pas aller où il veut, qu'il ne puisse pas faire ce qu'il veut. Et surtout, il n'y a pas de raison pour que ses droits soient aussi limités, pour qu'il ne puisse les exercer, qu'il ne puisse exercer tous les droits qui sont attachés, inextricablement attachés à sa personne, c'est-à-dire à sa personne d'homme et à sa personne de citoyen.
Mais apparemment, Fatou Bensouda a fait appel de la décision d'acquittement, non ?
Elle a fait appel, absolument. Oui, oui, elle va déposer son document, le document dans lequel seront exposées en détail les raisons de cet appel, dans quelques jours.
Et qu'est-ce qui va se passer avec ce que vous avez déposé à la chambre d'appel, alors ?
Alors, justement, c'est parce qu'il y a appel de la part du procureur et que la procédure peut donc durer encore un certain temps que nous pensons qu'il est urgent que les juges disent que le président Gbagbo peut recouvrer l'intégralité de ses droits du fait de son acquittement et qu'il peut jouir désormais d'une entière liberté.
Jusqu'à la liberté de rentrer en Côte d'Ivoire où des élections se préparent pour 2020.
La liberté, c'est la liberté. La liberté, elle ne se divise pas. C'est cela que nous disons.
Et comment expliquez-vous l'appel déposé par Fatou Bensouda, alors ?
Ça, c'est une question qu'il faudra que vous posiez à la procureure. Elle est libre de faire appel. Elle a décidé de faire appel. Elle a donc décidé de suivre une voie procédurale qui lui était ouverte. C'est sa liberté.
Et vous pensez que votre demande a des chances d'aboutir ?
Naturellement.
C'était Maître Emmanuel Altit, avocat de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Coup de projecteur sur ce qui est désormais connu aux États-Unis comme l'affaire ukrainienne. Une affaire qui domine le débat politique américain. Les adversaires démocrates de Donald Trump enquêtent en vue d'une mise en accusation du président républicain qui lui parle d'une nouvelle chasse aux sorcières après l'enquête russe. Que pensez-vous de l'affaire ukrainienne ? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique Washington Forum ce jeudi à 19h30.
En République démocratique du Congo, la rougeole tue plus que l'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'Est depuis environ un an. Plus de 4000 personnes, en majorité des enfants, en sont mortes depuis janvier, alors qu'Ebola a fait environ 2000 victimes. Eddy Issango a joint à Kinshasa le chef du programme santé de l'UNICEF, Xavier Crespin.
Depuis janvier 2019, nous avons enregistré plus de 200 000 cas de rougeole dans pratiquement l'ensemble du pays, au niveau donc des 26 provinces qui comptent le pays, avec plus de 4 000 cas de décès, ce qui donne une taux de létalité de l'ordre de 2%. Il faut donc dire que pour les enfants de façon spécifique, ça représente 74% de ces infections et avec beaucoup de cas de décès chez les enfants, presque 90%. Sur le plan épidémiologique, le nombre de cas de rougeole à RDC a plus qu'augmenté par rapport à l'année dernière. Nous sommes dans une fourchette de l'ordre du triple par rapport à la situation de 2018. L'épidémie de rougeole est devenue beaucoup plus mortelle même que l'épidémie d'Ebola à ce jour, parce qu'au niveau d'Ebola, nous avons un peu plus de 2000 cas de décès et ici, nous avons de l'ordre de 4000 cas de décès.
Docteur Xavier, qu'est-ce qui explique ces regains de la rougeole en RDC?
Un des éléments qui est en faveur de cette augmentation, c'est la faible couverture sanitaire du pays de façon globale, mais surtout la faible couverture vaccinale. Selon les dernières informations, les dernières données que nous avons eues dans le cadre d'une enquête qui a été menée au niveau national, plus de 65% des enfants n'ont pas été complètement vaccinés, avec pratiquement 20% d'enfants qui n'ont eu aucune dose de vaccin, dont les vaccins pour la rougeole. Il n'y a qu'une seule province du Nord Kivu qui a atteint un taux de 50%. Tous les restes sont en dessous de 50% du taux de couverture vaccinale. Il y a eu un relâchement de l'ensemble du système de santé par rapport aux autres activités depuis plus d'un an. Depuis août 2018, le pays fait face à l'épidémie d'Ebola. Et pratiquement toutes les énergies, toutes les actions sont menées vers l'épidémie d'Ebola et le reste des activités ont été un peu négligées, soit par manque de ressources humaines pour faire les activités en stratégie fixe, en stratégie avancée ou même en stratégie mobile, ou par manque de financement également pour acheter le maximum de vaccins, le maximum de kits pour le traitement des cas de rougeole.
Qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce que vous pensez faire pour essayer de stopper l'augmentation de cette maladie et de cette épidémie?
Le leadership, bien évidemment, du ministère de la Santé, avec l'appui de tous les partenaires, c'est déjà de trouver le financement pour commander suffisamment de vaccins. C'est dans ce cadre que l'UNICEF, par exemple, depuis le début de l'année, nous avons acheté pour 8 millions de vaccins pour la rougeole. Nous organisons également des ripostes dans les zones qui sont en épidémie. Nous avons également mis en place des systèmes de renforcement de la vaccination de routine.
Le docteur Xavier Crespin est chargé du programme santé à l'UNICEF à Kinshasa.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
voaafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.
La Turquie a lancé une offensive dans le nord-est de la Syrie contre une milice kurde soutenue par les Occidentaux dans la lutte anti-djihadiste. Ankara veut profiter du retrait américain pour se débarrasser des Kurdes installés le long de ses frontières côté syrien. Bagessi Koura a joint à Paris Ahmet İnsel, ancien professeur à l'université Galatasaray en Turquie.
Pour la Turquie, l'installation au nord de la frontière syrienne, tout au long de la frontière turque, des entités politiques kurdes contrôlées par les forces de YPG, les forces kurdes et des forces démocratiques syriennes, des forces kurdes syriennes, constitue, selon la Turquie, selon l'État turc, une menace pour sa sécurité nationale, parce que il considère que les entités syriennes au nord de la, les entités kurdes au nord de la Syrie sont contrôlées par une organisation militaire, une organisation qui mène un combat de guérilla contre la Turquie depuis une quarantaine d'années. Donc aujourd'hui, ils interviennent la troisième fois. Cette fois-ci dans une zone qui est de l'ordre de 100 km de long au long de la frontière. Et ils ont commencé à bombarder depuis à peu près une demi-heure les deux villes de Tel Abyad et de Resulayn, les deux villes frontalières syriennes. Et probablement ce soir ou demain, les forces terrestres vont commencer à avancer dans cette région-là.
Alors, avec le retrait des troupes américaines, de quelles forces disposent les Kurdes pour se défendre?
Les forces démocratiques syriennes et d'autres aussi groupes ethniques syriens, mais majorité kurde, disposeraient de l'ordre de 25 à 30 000 combattants dans la région et qui sont pas mal armés, avec des armements lourds par les Américains. Mais ce qu'ils ne disposent pas, évidemment, c'est la couverture aérienne.
Quels sont les risques d'une telle guerre?
Nous ne savons pas comment vont réagir les Kurdes et nous ne savons pas jusqu'à quelle profondeur les forces armées, les militaires américains se sont retirés. Et deuxièmement, nous ne savons pas la capacité réelle de résistance des Kurdes dans cette région. Il est fort probable qu'ils résistent plus dans cette région-là parce qu'ils n'ont plus rien, ils n'ont plus d'autre endroit à aller.
C'était Ahmet İnsel, spécialiste de la Turquie. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Firmin Max Koyaweda, accompagné de Saïd Taïeb. À la présentation, Nathalie Barge. On se retrouve dans un instant pour un rappel des grands titres de l'actualité. À tout de suite.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique. VOA.